Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, hein. Ravie de vous retrouver sur Nous n'avons qu'une terre. Lundi 30 septembre se tenait au Corum à Montpellier la journée stratégie d'accélération des maladies infectieuses émergentes. À l'initiative de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et de nombreux labos du centre de recherche de Montpellier. Alors cette stratégie, elle est née au lendemain de la grande pandémie de la Covid-19. Elle a maintenant 3 ans d'existence et il s'agit de renforcer notre préparation face au risque de survenue d'une nouvelle crise sanitaire majeure et de savoir y répondre. En effet, la Covid nous a surpris à tous les niveaux. L'objectif de France 2030 est désormais donc de se préparer. Car il est certain que de nouveaux pathogènes vont émerger, majoritairement issus de la faune sauvage. Plus l'homme touchera à la nature, plus il précipitera ses émergences. Et depuis les années 2000, des centaines de scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les activités humaines, en précipitant l'effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une épidémie de pandémie. Écoutons Antoine Flahaut nous en parler. Il est médecin, épidémiologiste français, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. On l'a beaucoup entendu sur les médias au moment de la Covid et il nous explique comment se développe cette idée, qui n'est pas nouvelle, de la santé globale.
On parle aujourd'hui du concept des maladies émergentes, c'est ces maladies qui apparaissent, ces nouvelles maladies. En fait, le concept de maladies émergentes, ça n'est pas seulement les toutes nouvelles maladies, c'est aussi des maladies qui vont apparaître dans un endroit du monde où jusqu'à présent, elle n'était jamais apparue. Par exemple, l'épidémie du chikungunya, qui est une maladie qui est due à un virus qui est transporté par un moustique et qui pique les hommes et qui les contamine et qui leur donne une maladie qui ressemble à une fièvre un peu grippale, mais avec des douleurs musculaires ou articulaires extrêmement fortes et parfois même un peu invalidantes, avec parfois des complications. Cette maladie est apparue la première fois, a été découverte, on va dire. Je ne sais pas si elle est apparue, mais elle a été découverte en Tanzanie en 1952. C'est la première fois où l'homme identifie le virus du chikungunya. Ça ne veut pas d'ailleurs dire qu'elle est apparue à ce moment-là. Il se trouve que des chercheurs se sont trouvés au moment d'une épidémie de chikungunya en Tanzanie et ont pu identifier le germe et il se trouve qu'il était nouveau, il n'avait jamais été identifié auparavant. On lui a donné le nom, un nom d'ailleurs d'un dialecte africain qui veut dire le dos courbé, parce qu'on a souvent le dos courbé à cause des douleurs articulaires. Et cette maladie était confinée, on va dire, au continent africain. On a pu après découvrir qu'elle était également existante. C'était un autre variant viral sur le continent asiatique, notamment en Inde, mais aussi en Thaïlande ou dans l'Asie du Sud-Est. On ne l'avait jamais rencontré dans l'océan Indien. Il se trouve qu'en 2005-2006, il y a eu une émergence de ce virus dans l'océan Indien. Donc les virus peuvent émerger à un endroit donné. Alors parfois des virus émergent que l'on n'avait jamais connu. Je vous ai parlé du chikungunya en 52, mais il y a eu aussi le virus du sida, lorsque dans les années 80, on a découvert le virus du sida. Probablement a-t-il émergé au courant des années 70 en Afrique, probablement près du Zaïre, mais toujours est-il que à l'époque, on l'a découvert, on l'a identifié pour la première fois. Donc, il est difficile de savoir pourquoi une maladie se met à émerger dans un endroit donné, à un moment donné, et les raisons sont très probablement multiples. Il ne faut pas chercher une seule raison. c'est pas le réchauffement climatique, mais il peut y contribuer. Ça n'est pas la mondialisation, mais elle peut y contribuer. Par exemple, beaucoup de maladies sont liées aujourd'hui, notamment pour les épidémies de maladies infectieuses, sont liées au contact entre l'homme et l'animal. Très souvent, une maladie va émerger parce que l'homme va héberger un virus ou une bactérie qui, jusqu'à présent, n'était jamais survenu chez des hommes. Mais par exemple, la déforestation, parce qu'il faut bien que les hommes, la population humaine est en train de croître de 2 milliards d'habitants au début du XXe siècle. On est 7 milliards aujourd'hui, on sera probablement 9 milliards à la fin du siècle, et au moins. Eh bien, il faut bien se loger. Donc, on déforeste un peu plus. Il faut bien aussi cultiver davantage pour se nourrir. Et donc, on est de plus en plus proche d'animaux qui jusqu'à présent n'étaient pas au contact de l'homme. Donc des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs évidemment génétiques et biologiques, et puis des facteurs éventuellement environnementaux de type climatique, sont généralement à la convergence de ce qui va produire l'émergence épidémique.
Alors, je vais vous donner quelques exemples. La grippe aviaire, qui affecte désormais les vaches laitières, aux États-Unis. C'est une nouvelle surprenante. Chez les bovins, elle fut annoncée en 2023. Longtemps, cette pathologie a circulé dans les populations d'oiseaux sauvages et domestiques, et avec plusieurs vagues de contamination, et on se souvient des milliers de canards qui ont été détruits. Le virus de la fièvre du Nil, par exemple, autre exemple, est transmis à l'homme par les moustiques également. Une fièvre virale, parfois associée à des complications neurologiques. Je me souviens d'être à Dakar pour RFI au moment de l'arrivée du Paris-Dakar. L'Institut Pasteur avait signalé la présence de la fièvre. Fallait-il annuler l'arrivée de la course ? Les autorités choisirent le silence. Cela aurait pu être le déclenchement d'une pandémie. La dengue, le chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola, vous les connaissez mieux. Le nombre des maladies émergentes jusqu'alors inconnues a explosé ces 40 dernières années. La plupart d'entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses, comme nous l'a expliqué Flao, qui ont été transmises aux hommes par les animaux. La journaliste d'investigation, réalisatrice, écrivaine, Marie-Monique Robin, outre de nombreux ouvrages référents, a réalisé une quarantaine de films, dont le plus connu, bien sûr, reste Le Monde selon Monsanto. Nous ne désespérons pas de l'avoir un jour comme invitée sur nos antennes. En 2021, elle écrivait « La fabrique des pandémies », un livre dont elle sortira un film que nous avons suivi. Et nous avons suivi sa présentation au Green Award à Deauville en 2022. Elle y démontrait que préserver la biodiversité, c'est protéger notre santé. Et dans ce documentaire, événement, elle cherche à saisir les causes de cette épidémie des pandémies et part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Le constat est sans appel. La destruction des écosystèmes par la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle menace directement la santé planétaire. Écoutons-la, elle s'entretient avec de jeunes élèves à l'école de journalisme.
Les pandémies, elles ne vont pas disparaître. Les pandémies, il y en aura de plus en plus. Sauf si on change notre rapport aux vivants, si on arrête de déforester, si on arrête de détruire la biodiversité. C'est ça que dit le film, hein. C'est ça que disent les scientifiques. Et ils disent même que ça peut être bien pire, parce que la Covid-19, c'était un virus très peu mortel par rapport à ceux qu'on voit dans le film. Hein. Ebola, le Nipah, le MERS sont des virus qui tuent beaucoup plus que le coronavirus. Le coronavirus, il tue moins d'un pour cent des gens qui sont contaminés. Donc c'est pas du tout. Enfin, c'est un virus pas mortel, pas très mortel, comparé à beaucoup d'autres. Donc l'inquiétude qu'ont ces scientifiques, c'est que si on continue de détruire les écosystèmes, il y aura d'autres maladies qui vont arriver et qui peuvent être bien plus dangereuses que ça. Donc voilà, on sait ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de déforester, il faut arrêter de, de semer du soja en Argentine pour nourrir les élevages intensifs européens, les poules, les cochons et les vaches. Voilà. On sait ce qu'il faut faire. Alors maintenant, est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est, voilà. Ça, c'est une autre question. Mais malheureusement, il faut savoir que si on ne change pas ça, il y aura d'autres maladies qui vont arriver. D'ailleurs, avant la Covid, vous avez vu, la liste est très très longue de nouvelles maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas avant. Hein. Y compris le sida. On dit que le sida est apparu en 1980. C'est faux, en fait. On a identifié plusieurs cas en 1980. Mais ce virus circulait déjà depuis le 19e siècle à cause de la déforestation que nous, les Européens, nous avons fait en Afrique. C'est la même histoire. Il a mis beaucoup de temps à s'adapter, à muter, pour ensuite devenir un virus pandémique. On sait que l'origine, le réservoir, sont des chimpanzés. Mais il existait ce virus depuis très longtemps, le virus, le HIV. Hein. Et voilà. Donc, malheureusement, si on ne change pas notre modèle économique, finalement, il y aura d'autres maladies qui vont émerger.
Quelle est la principale source de diffusion des pandémies?
Ce qu'on comprend dans le film, c'est que les virus qui existent là depuis la nuit des temps sans embêter personne, à un moment, ils sortent, j'allais dire, du bois, entre guillemets, hein, parce que nous, les humains, par nos activités, perturbons les équilibres qu'il y a notamment dans les forêts tropicales. Soit parce qu'on exploite du bois, on fait du soja, on fait de l'huile de palme, on fait de l'élevage, enfin voilà. Alors ensuite, si ce virus qui provient d'une forêt tropicale rencontre des animaux domestiques élevés de manière industrielle, comme on voit dans le film, hein, des cochons, des poulets, enfin, etc., évidemment, ça va lui permettre de s'adapter, de se transformer, et éventuellement ensuite de contaminer les humains. Et si en plus, on continue de voyager dans tous les sens, de prendre l'avion dans tous les sens, de balader tout, par paquebot, les blue jeans qui viennent de Chine, les portables qui viennent de Taïwan, et je ne sais pas quoi, dans tous les sens, eh ben les virus, ils font comme les humains et comme les biens, ils prennent l'avion, ils prennent le paquebot et ils se retrouvent à l'autre bout du monde.
On se prépare donc à ces nouveaux risques et pour faire face au rythme d'émergence des nouveaux pathogènes, la stratégie d'adaptation propose une approche intégrée dont nous avons déjà parlé, One Health. Penser la santé à l'interface entre les animaux, l'humain, l'environnement. Localement, internationalement, les écosystèmes comme les forêts sont détruits, les animaux qui s'y nourrissaient, on a vu, et y vivaient, se rapprochent des villes et des villages, les animaux transmettent plus facilement leurs maladies aux hommes et vice-versa. À l'heure de la mondialisation, les virus voyagent par bateau, ou par avion même, on l'a vu, dans les étoffes, les grains, les fruits, etc. Alors, le bassin méditerranéen est particulièrement sensible, d'abord parce qu'il est sur la route des migrations des volatiles, que les moustiques sont des vecteurs entre ces volatiles et les hommes. Alors récemment, on a signalé l'impact du virus du Nil, dont nous avons parlé tout à l'heure, justement dans le bassin méditerranéen. Le cheval est une espèce sensible à ce virus et les chevaux ont été infectés dans plusieurs pays d'Europe et du bassin méditerranéen, en Égypte, en Italie, en Camargue, dans les Pyrénées-Orientales, en Guadeloupe, au Maroc. Des cas humains sont rapportés depuis les années 1960. Aujourd'hui, l'aire de répartition est en accélération. Alors, je vais vous donner un conseil. Si vous en avez l'occasion, essayez de lire l'excellent ouvrage d'Eric Orsena sur la géopolitique du moustique. Vous verrez comment cet insecte se déplace.
Connaissez-vous la fièvre du Nil occidental? Ce virus, transmis par les moustiques comme le paludisme ou la dengue, est rarement observé chez l'homme. Pourtant, cette année, les cas explosent en Europe et dans les pays voisins. C'est 3 fois plus qu'en 2017 et la saison n'est pas terminée. En cause, le moustique Culex, qui transmet l'affection après avoir piqué des oiseaux contaminés. Parmi les pays les plus touchés, l'Italie, avec 327 cas signalés devant la Serbie, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie ou encore Israël. En France, 11 contaminations ont été comptabilisées cet été. Si l'infection humaine au virus du Nil occidental s'apparente parfois à un état grippal, avec fièvre, maux de tête et douleurs musculaires, dans de très rares cas, des complications neurologiques peuvent survenir et entraîner la mort. C'est le cas en Serbie où 21 personnes sont décédées ces dernières semaines. La Grèce compte 17 morts, ils sont 13 en Italie. La maladie n'est pas contagieuse, mais les autorités sanitaires appellent à la vigilance pour limiter sa propagation.
Alors depuis peu, pèse également sur le littoral une nouvelle menace qui nous vient de la région Provence-Côte d'Azur, c'est la PPA, la peste porcine africaine. Cette maladie animale touche les porcs et donc les sangliers. Elle est souvent transmise par les tiques. Elle est absolument sans danger pour l'homme, pour l'instant. Et ses conséquences sont surtout économiques pour les éleveurs. Mais pour anticiper l'introduction de la PPA, de la peste porcine africaine en France, le ministère a lancé dès juillet dernier une vaste campagne de communication qui se prolongera jusqu'à fin novembre. Cette campagne sensibilise les transporteurs routiers, les voyageurs internationaux, les randonneurs, les chasseurs, les travailleurs saisonniers qui sont expatriés au risque d'introduire la PPA en France à partir d'aliments contaminés, de pays infectés, jetés dans la nature et consommés par des sangliers. Mais est-ce que vous avez été sensibilisé par ces annonces? Eh bien non, elles sont beaucoup trop confidentielles. Et justement, tout un travail est en cours actuellement pour essayer de les rendre beaucoup plus visibles. Il ne s'agit pas de créer de l'éco-anxiété, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il s'agit surtout de ne pas se laisser prendre, de ne pas se laisser avoir comme nous l'avons été par la Covid-19. Ces risques existent, ils sont maîtrisables, ils concernent peu de monde et ils dépendent depuis 2022 d'un réseau, le réseau SAGIR, qui vise à la détection la plus précoce possible de l'arrivée de la PPA, de la peste porcine, dans la faune sauvage, afin d'éviter sa propagation et de prévenir sa transmission aux porcs domestiques. Les services du ministère sont en relation avec les représentants des chasseurs pour atteindre une régulation optimale des sangliers à la frontière avec l'Allemagne, comme cela est fait en région PACA. Mais regardez, les sangliers maintenant, on les trouve jusque dans les HLM. On les voit se balader dans les rues de Marseille. Et ils sont porteurs de cette peste porcine africaine. Donc il n'est pas question de paniquer, mais il est question de surveiller. Montpellier propose une formation ouverte à l'international dans le domaine des maladies émergentes et réémergentes. Grâce à ses réseaux sud, ancrés de longue date, 80 ans pour l'IRD, qui se fête et se fêteront encore à Marseille bientôt, l'ancienne Orstom, 40 ans pour le CIRAD, que vous connaissez tous. Cette formation présente un caractère unique en Europe et sera à l'ordre du jour de la COP 16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie, et qui se déroulera bientôt. La biodiversité, ce n'est pas seulement des plantes qui apparaissent ou disparaissent sous l'effet des activités humaines ou du réchauffement climatique, c'est aussi le cœur de notre alimentation et de notre santé, donc de notre vie sur Terre. Prévenir les crises coûterait moins cher que les traiter.
Pour la
l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.